Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver. Je vous mentionne d'entrée de jeu deux choses. Première chose, lavieenbd.com, si jamais vous voulez retracer certaines émissions passées. Toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion, ou presque, et ce, depuis les 11 dernières années. Et dans un deuxième temps, pour saluer et féliciter Julie Doucet. Julie Doucet qui devient la première autrice québécoise, voire canadienne, à se retrouver finaliste pour le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Elle est aux côtés de Pénélope Bagieu et Catherine Meurice. Et évidemment, c'est une grande, grande récompense pour une carrière, ce prix. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a trois autrices qui sont en lice pour cette récompense. Alors, ça montre bien, je pense, l'impact et la force de l'œuvre de cette autrice québécoise et l'impact qu'elle a eu sur la bande dessinée. On en parlait il y a quelques semaines justement de Julie Doucet autour de cette rencontre, autour de cette anthologie Maxi Plot. Alors, on mettait en exergue justement la force, la puissance de ces 10 années-là. Je pense que cette nomination-là vient également mettre en exergue cette force-là. Alors, je ferme un peu cette petite parenthèse, on plonge dans le menu pour cette semaine. Alors, deux éléments qui seront mis de l'avant. Dans un premier temps, en deuxième moitié d'émission, on parlera mise en page en bande dessinée en compagnie de Michel Giguère, en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Et en première moitié d'émission, on va aller plutôt lorgner vers la bande dessinée documentaire. On va aller plutôt lorgner vers les thématiques de réhabilitation des jeunes contrevenants, vers le système, dans le fond, qui est en place, les enjeux associés au système-là, et à travers le regard qu'on peut porter dans un centre qui se trouve du côté de Montréal. Il s'agit du Centre jeunesse Cité des Prairies, qui a été bâti en fonction de l'architecture d'une prison, mais qui travaille dans une logique de réhabilitation qui amène, si vous me permettez l'anglicisme, des clashs qui ne sont pas toujours faciles. Alors, on en parle à l'instant avec les auteurs de l'ouvrage « Se battre contre les murs », Nicolas Salé et Alexandra Dion-Fortin. Alors, c'est le menu pour cette semaine, ici à La vie en BD. Alors, dans le cadre de La vie en BD, on replonge, on fait un petit retour en arrière vers l'automne dernier, un album dont j'avais envie de vous parler, qui s'intéresse à une thématique, à une problématique dont on ne parle pas nécessairement assez souvent, et surtout dont on parle très peu par le truchement de la bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est Se battre contre les murs. Du côté des éditions La Pastèque, les auteurs, autrices, c'est Nicolas Salé et Alexandra Dion-Fortin. Ils sont avec nous. Bonjour.
Salut.
Alors, on va commencer par positionner le sujet d'entrée de jeu. Donc, on parle d'un reportage, une bande dessinée qui nous amène au Centre jeunesse de Cité des Prairies. Alors, comme on va beaucoup parler de ce centre jeunesse-là, je pense que ça vaudrait la peine de prendre quelques instants pour dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait justement qu'on devrait s'y intéresser.
C'est aussi un peu l'enjeu du livre, de comprendre ce que c'est, d'y plonger, etc. Mais c'est vrai qu'on peut quand même en donner une petite définition préalable. En fait, c'est un centre qui a été fondé en 1963 comme un centre de réadaptation, puis qui était chargé à sa construction d'accueillir les jeunes les plus difficiles, on va dire, de la province. Des jeunes, en fait, qui peuvent être soumis à deux lois, soit la loi sur les jeunes contrevenants. Donc là, c'est des jeunes qui ont commis des infractions, qui ont été jugés par un tribunal de la jeunesse, puis qui sont condamnés à des peines qu'on appelle de placement et de surveillance. Ils vont se retrouver dans des unités fermées. La particularité de Cité des Prairies, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui sont là au titre de la loi sur la protection de la jeunesse. Ils sont dans d'autres unités. Donc, eux, ils n'ont pas commis d'infraction et ils sont là au titre de leur protection. Donc, on a vraiment un centre de réadaptation qui est hybride, comme ça, dans le public qui l'accueille. La BD, elle plonge très clairement dans une unité pour jeunes contrevenants. Donc là, les jeunes qu'on rencontre, les éducateurs aussi qu'on rencontre, c'est des personnes donc, qui sont plongées dans cette réalité-là du suivi des jeunes contrevenants, donc des jeunes qui ont commis des infractions. Et juste pour terminer, mais j'imagine qu'on en rediscutera, la particularité du centre, puis c'est un peu aussi le pitch, on va dire, de la bande dessinée, c'est qu'en effet, il a été construit avec la volonté de créer un lieu de réhabilitation, de réadaptation, avec l'idée que les jeunes contrevenants, ils ont tout un ensemble de difficultés, puis qu'ils sont amendable, éducable, etc. Mais qu'en même temps, il a été bâti avec les plans d'architecture d'une prison à sécurité maximale. Et donc là, on a une ambivalence, si vous voulez, entre le désir de réadaptation qui est réel, qui est incarné par des gens, des éducateurs qui y croient beaucoup, et en même temps, une ambiance, une structure carcérale qui pèse sur le quotidien, sur les expériences, sur les interactions, et qui fait qu'on est dans une quasi-prison.
Et pour se figurer, justement, c'est un centre qu'une partie du public connaît déjà un peu. Et quand vous dites ça ressemble à une prison, ben, il y a des scènes de prison d'Unité 9, par exemple, qui ont été tournées là. Donc, quand on dit c'est une architecture carcérale, on ne joue pas avec les mots, c'est une architecture carcérale.
Exactement.
Ouais, vas-y, Alexandra.
Ouais, c'était un des éléments, un des gros défis en fait de la bande dessinée aussi, parce que c'était de représenter ces lieux-là tels qu'ils sont, des lieux qui n'étaient pas faits pour être un espace de réhabilitation, mais bien un espace carcéral. Donc c'était particulier quand même comme expérience, puis je crois que ça s'est bien reflété dans la bande dessinée.
Parce qu'il y a un élément, puis je pense qu'on peut détailler un peu sur le bâtiment aussi avant de tomber sur les humains qui l'habitent et qui l'animent. Je pense que c'est pertinent de le faire parce que d'entrée de jeu, le bâtiment lui-même, je pense que c'est clair que c'est une partie du problème, c'est une partie de l'enjeu, c'est une partie de la réalité auquel les gens qui travaillent là sont confrontés, et ça devient, dans le contexte de se battre contre les murs, un des personnages centrales, personnage entre guillemets, mais un personnage central de votre récit aussi. Donc, il faut l'habiter, il faut l'animer, il faut nous faire comprendre, et il faut nous faire comprendre les enjeux qui ressortent de cette architecture-là comme telle.
Absolument, ouais. Puis Unité 9 qui avait pu utiliser ces lieux-là comme espace pour leur prise de vue, tu sais, ça donne déjà une bonne idée. Mais c'est pas seulement des espaces, c'est pas seulement des petites cellules, tu sais, tout a été repensé, réaménagé, mais en tant que tel, les murs sont les mêmes. Tu sais.
C'est ça, et en fait, je pense que c'est un des enjeux de la bande dessinée, de faire de l'institution de sujet. Moi, je trouve que ça, c'est un point extrêmement important. Je pense qu'Alexandra pourra en parler dans la manière dont elle a pris le crayon pour essayer de le faire vivre, ce lieu-là. Je trouve que c'est fascinant la manière dont elle l'a fait. Mais c'est clair que moi, dans mon optique de recherche, parce qu'à la base, c'est une recherche, c'était ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette institution, son histoire, ses ambivalences, qui fait qu'on est dans des zones de gris en permanence, que oui, il y a une visée de réhabilitation qui est réelle, mais que oui, il a été fondé avec un bâti extrêmement carcéral qui est réel aussi et qui est extrêmement pesant pour les jeunes. Je pense que ça doit nous amener à réfléchir sur le projet politique très ambivalent lui-même qu'incarne en fait l'institution, mais c'est ça. Et les personnages qu'on a dedans, en fait, ils incarnent ces ambivalences, les éducateurs, les jeunes. C'est un peu ça le pari aussi de la recherche comme de la bande dessinée, c'est d'essayer de faire de l'institution le personnage et dont les ambivalences sont finalement incarnées par des personnages, des histoires, des trajectoires.
Oui, puis les ambivalences qui sont dans le fond exprimées un peu d'un côté à travers les fonctions. Et je pense qu'on parlera effectivement du crayon, de comment on transforme dans le fond cette cellule-là en chambre, ce lieu-là, comment on réussit à rendre la fonction usuelle puis la fonction présagée dans le fond par l'architecture, et en parallèle par le vocabulaire aussi qui reflète beaucoup cette double identité-là. Je veux dire, on parle d'une chambre, mais c'était une cellule auparavant, et ça se reflète aussi dans le reste, des conséquences plutôt que des sanctions, des mesures de retrait plutôt que des mesures d'isolement. Donc, il y a toute une ambivalence qui essaie de camoufler peut-être un peu ce que ce lieu-là devait être au départ.
Ouais, moi, je pense que ce serait intéressant d'entendre Alexandra sur comment elle a... Parce que je pense qu'en effet, rendre visibles ces lieux, c'est aussi aller un peu à l'encontre de ce camouflage. Mais en fait, je pense que vous avez dit le mot, en fait, il est hyper important. Il y a un camouflage, en fait. Moi, j'appellerais ça, en sociologie, on pourrait dire que c'est une forme d'euphémisation. Et puis, il y a des travaux de sociologie, de criminologie qui, dès les années 80, ont beaucoup insisté sur la manière dont l'euphémisation dans les systèmes de justice pénale était une manière de camoufler la violence des institutions. Et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on s'est dit « Ah, il faut en faire un lieu de réhabilitation », on a camouflé sa violence propre. Et en fait, tous ces mots-là, en fait, c'est des jeux de mots, entre guillemets, mais ils camouflent une violence qui est là et qui ne dit rien du fait que, enfin, qui n'enlève rien aux visées de réhabilitation qui sont incarnées par ces gens. C'est ça l'ambivalence. Mais par contre, le camouflage, il a des vrais effets politiques. Je pense qu'il faut pouvoir en parler. C'est-à-dire que, au nom du fait qu'on camoufle la violence, bah, à partir du moment où on camoufle la violence et on dit aux jeunes que c'est nécessairement pour leur bien qu'ils sont là, bah, ça pose beaucoup de questions, ne serait-ce qu'en termes de droit, c'est-à-dire de quel droit on va venir contester quelque chose qui est nécessairement fait pour ton bien, d'une certaine manière. Donc, en fait, je pense qu'elle pose des vrais enjeux philosophiques, politiques, moraux, ce camouflage. Donc, je pense qu'un des enjeux du coup de crayon, et pour moi, ça, la BD, c'est enfin, en tant que chercheur, je trouve ça fascinant, c'est que ça révèle, en fait, ça dévoile, en fait, ce qu'il y a derrière le camouflage, derrière les mots. Mais là, Alexandra en parlerait beaucoup mieux.
Oui, je me dirige, je tourne mes yeux vers vous, Alexandra Dion-Fortin.
Oui, il y avait une foule d'enjeux de représentation aussi dans cette bande dessinée-là, parce que non seulement pour les lieux, mais pour les personnages aussi, parce que tous les dialogues étaient ressortis des entretiens que Nicolas avait eus en 2015, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, pour ce qui était de la représentation du bâtiment en tant que tel, j'ai étudié en architecture, donc c'est sûr que j'ai un œil critique par rapport à plusieurs éléments, même quand on est allé visiter, tu sais, c'est sûr que c'est pas parce que tu mets des plantes puis que tu peins les murs que que les formes ne sont plus là, tu sais. Puis je veux dire, un des exemples, par exemple, ce serait les tables de chacune des sections pour les jeunes, de chacune des unités. Elles sont vissées au sol, tu sais. Puis on pourrait dire aussi, oui, c'est pour la protection, c'est pour empêcher probablement que les tables se fassent flipper à tout bout de champ. Mais ça donne une idée, tu sais, est-ce que tu protèges vraiment les jeunes ou est-ce que tu les empêches? Enfin, c'est plein de questions super pertinentes. Puis, tu sais, malgré tout, malgré le fait qu'on a fait le projet, j'ai pas tout à fait toutes les réponses à tout ça, mais c'est des réflexions super pertinentes à avoir, ça c'est certain.
Oui, puis à travers le dessin, dans le fond, on va vraiment de lieu en lieu aussi, dans le fond, la BD, puis j'ai l'impression qu'il y a une volonté, justement, de nous faire découvrir les différents endroits, les différentes fonctions, puis d'avoir une représentation qui est, je dirais pas 360 degrés, mais qui s'en rapproche, dans le fond, de l'unité que vous avez visitée.
Exactement. Ben, en fait, quand on est allé visiter, on a beaucoup documenté aussi l'espace, le plus qu'on pouvait, puis... l'idée, c'était de représenter le plus fidèlement possible chacun de ces lieux-là, puis d'y mettre, pas mettre en scène, mais d'y représenter des scènes qui avaient eu lieu ou du dialogue. Puis ensuite, c'est ça, il y avait toute une question de faire corréler ce qui se passait avec des personnages dits « inventés », entre guillemets, dans des vrais lieux, que ce soit fidèle à la réalité, tout en protégeant l'identité des jeunes. Donc, c'était quand même un bon défi. Puis, je crois que une des raisons pourquoi on m'avait approché pour le projet à la base, c'est que j'ai un trait de dessin qui est très atmosphérique, qui est très qui veut aller dans le détail tout en restant relativement nuageux, si on veut. Donc, je pense que c'était un avantage pour un bâtiment qui est somme toute très, très institutionnel. Donc, il fallait mettre un petit peu de une petite touche à l'intérieur, je crois, pour rendre ça agréable à la lecture.
Hey, je peux dire un petit truc, c'est que à la base, Alexandra a parlé d'entretien, je pense que c'est important de le dire. À la base, en fait, sur quoi ça repose? Ça repose sur beaucoup, d'abord des observations, en fait. Moi, je suis allé sur place une vingtaine de journées, en sociologie, on appelle ça l'observation directe. Donc, j'ai vraiment plongé avec toutes les certificats éthiques nécessaires, évidemment, et le consentement des personnes présentes. Mais voilà, passer des journées, j'ai passé 20 journées. Du matin au soir à prendre des notes, à discuter avec tout le monde. Et ensuite, il y a eu des entretiens plus enregistrés. Et puis ensuite, il y a eu un travail d'archives aussi. Donc, c'est un peu toutes ces données-là qui nous plongent dans le quotidien, entre guillemets. Et en effet, toutes les paroles qui sont là, c'est des paroles qui sont recueillies par... Et ça je pense que c'est extrêmement important. C'était la volonté. Vous avez nommé La Pastèque, vous n'avez pas nommé Atelier 10, c'est le co-éditeur. Et puis, je tiens aussi à mentionner le travail de traduction très important qu'a fait une éditrice, Judith Oliver, pour mettre en dialogue mon travail de recueil de données, et puis le travail d'Alexandra qui consistait à traduire ces données en un dessin dont elle a parlé à l'instant.
Parce que ça devient une démarche, en fait, parce qu'au départ, vous l'avez dit, vous êtes chercheur en sociologie, professeur. Donc, c'est des travaux que vous faites dans le cadre de vos activités de recherche. Et j'imagine qu'à un moment donné, il y a eu une volonté ou une opportunité aussi de se dire, ben, cette réflexion-là, les propos qui sont amenés dans les travaux, de profiter d'un médium autre pour les éclairer, j'imagine, vers un public plus large, les vulgariser, puis porter autrement, dans le fond, cette réflexion-là, hors des cercles académiques.
Ouais, c'est clair que c'est ça l'enjeu. Moi, j'étais ravi, en fait, quand on m'a fait cette proposition. Il y a l'enjeu de la diffusion, mais il y a aussi un enjeu de fond. Moi, je pense qu'il y a deux petits enjeux, là. Il y a d'abord le fait que, pour ce travail-là, le dessin se prêtait particulièrement bien. Il y a vraiment une dimension, comme je disais, architecturale, de camouflage d'une certaine réalité matérielle architecturale derrière des mots. Et ça, dans un article avec juste des mots, c'est pas facile. D'ailleurs, la collaboration, les échanges avec l'éditeur, ils ont commencé quand j'ai publié un article avec de la photo. J'ai fait un article où j'ai eu l'autorisation éthique de publier 10 photos de l'architecture sans personnage. Je n'avais pas le droit d'un point de vue éthique, ce qui me paraît logique. Et donc, en fait, les photos, elles visaient justement à rendre visibles ces ambivalences-là. Donc évidemment, la BD, pour moi, c'était un prolongement, certes, de vulgarisation, de diffusion, mais aussi sur le fond, ça avait énormément de sens pour moi que de montrer visuellement ces enjeux-là. Et puis la deuxième petite chose, parce qu'Alexandra, elle l'a mentionné, je trouve ça super intéressant qu'elle dise ça. Alexandra, elle dit, en fait, j'ai encore plein de questions. Et moi aussi. Et je pense qu'en fait, c'est un des avantages de la BD, c'est que dans un article scientifique ou dans un livre qu'on écrit, souvent, on conclut. C'est logique. Et là, je trouve que on conclut pas d'une certaine manière. On laisse ouvert quand même les interprétations au lecteur. Et puis ça, je trouve que la bande dessinée permet vraiment ça, de donner à voir une réalité. C'est sûr, on oriente un peu. Il y a de la mise en scène. On n'a pas choisi au hasard les scènes qu'on représente. On les a mis en ordre aussi, etc. Donc on suggère des interprétations, mais en même temps, la conclusion finale, elle est quand même laissée au lecteur. Et ça, je pense, c'est un outil aussi de réflexivité critique, quoi, de permettre aux gens de se faire leur opinion sur ces institutions.
Oui, ben un peu, j'imagine, dans l'esprit de l'observation que vous aviez faite au départ aussi, où on se dit, si on essaie de repliquer, puis c'est dans le souci de justement un sociologue, c'est mentionné clairement l'approche d'observation. Donc, si vous y allez une vingtaine de jours, ben vous ne verrez pas une arc narrative complète de rédemption ou des trucs comme ça qui nous aura amené ailleurs, dans un récit où là, on aurait nécessairement été obligé d'aller chercher de la fiction ou de suivre sur une durée qui est beaucoup plus prolongée, j'imagine aussi, un de ces jeunes-là pour pas tomber justement dans la fiction, rester dans le documentaire. Mais sinon, sur 20 jours, ben on ne sait pas exactement ce qui arrive avant, on ne sait pas exactement ce qui arrive après. Et j'imagine que si on commence à se poser des questions sur qui sont les éducateurs en dehors du travail, c'est quoi le parcours des jeunes au-delà de l'esprit qu'ils représentent, ben on sort un peu du sujet puis de la démonstration qu'on veut faire, donc qui doit être centré sur ce dilemme-là, c'est sur ce lieu-là puis sur les fonctions de ce lieu-là. Donc j'imagine que ça a été un choix aussi dès le départ.
Ouais, clairement, je me permets juste de dire ça, ça me paraît extrêmement important. C'est vrai, vous avez raison. Et en fait, il y a quand même un avant et un après, mais c'est l'histoire de ces systèmes de justice des mineurs, et en fait, qui sont marqués quand même, il faut le dire, par une accentuation de formes de contrôle qui pèsent sur des jeunes très précarisés, racisés, etc. Et en fait, tout à l'heure, je dis juste ça, Alexandra l'a mentionné, les tables. Et en fait, les tables, elles ont été changées en 2000, je ne sais plus exactement. Bref, avant, elles n'étaient pas vissées au sol, puis maintenant, elles le sont. Et ça témoigne de formes de sécurisation, excusez-moi le mot, mais voilà, qui montre qu'on est aussi dans des processus où on accentue les contrôles, etc. Puis ça aussi, on essaye de le donner à voir dans la bande dessinée. Donc, l'institution et le lieu, il incarne aussi ces grandes tendances, je veux dire, du contrôle des populations marginalisées.
Et donc, j'imagine, côté mise en scène, ça devient un bon défi pour la dessinatrice aussi, parce que d'un côté, on a un récit qui est plus impressionniste. Dans le fond, on vit un lieu à travers votre regard. Et en parallèle, on m'a toujours dit, dans le fond, ce qui est le plus difficile à mettre en scène en BD pour que ça reste dynamique, attrayant, c'est des conversations. Et l'album, pour l'essentiel, c'est des gens qui jasent, qui discutent, qui réfléchissent, qui se confrontent à des problèmes, et des problèmes qui sont généralement associés à d'autres personnes et donc vers d'autres dialogues.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça vient du fait qu'à la base, c'était une recherche? T'sais? Est-ce que ça faisait partie des défis, effectivement, parce que faut pas que ça devienne plate, de un. Puis de deux, faut trouver une façon que les, les personnages qui représentent des vraies personnes, mais qui ne sont pas exactement celles-ci, que ces personnages soient réalistes, intéressants à suivre aussi, qu'on s'y attache d'une façon ou d'une autre. Donc, on a réglé, au début, on a dû régler certaines questions telles que est-ce qu'on représente Nicolas? Est-ce que c'est une incursion à travers ses yeux, mais qu'on le met en scène? Est-ce qu'on suit particulièrement un jeune tout le long? Ou finalement, on a décidé de faire plutôt comme un album choral, si on veut. Donc, on suit plusieurs histoires simultanées. Puis, je pense que c'était nécessaire aussi pour la représentativité parce que, honnêtement, d'en suivre un seul, ça aurait été aussi de peut-être tomber dans des stéréotypes puis de faire croire aux gens que tous les jeunes étaient un peu comme ça, entre guillemets. donc c'est ça, hein? ça faisait partie des défis de représentation, certainement.
Et comment on organise un peu ça, justement? Donc, on a les travaux scientifiques et j'imagine qu'il y a beaucoup plus de stocks de matériel là-dedans. Là, on a une pointe d'iceberg à laquelle on a accès dans le livre. Donc, comment on fait, j'imagine, pour, d'un côté, savoir un peu le casting, donc quels sont les éducateurs, les personnalités, les amalgames, dans le fond, de personnalités puis de réflexions qu'on veut faire. Même chose du côté des jeunes qui sont dans ce système-là. Donc, comment on a abordé un peu ces étapes-là et comment on a surmonté peut-être un peu certains défis qu'on pouvait avoir aussi associés à ça. Donc, parlez-moi peut-être un peu de votre approche, votre méthode là, autour de tout ça.
Au début, c'était plus particulièrement Nicolas et Judith, dont tu mentionnais le nom tantôt, qui ont travaillé sur, en relisant plusieurs fois les documents de Nicolas, qui étaient plus universitaires, si on veut, de rendre ça... De fragmenter ça, de trouver qu'est-ce qui était le plus représentatif, le plus pertinent. Tu pourras compléter, Nicolas, si je me trompe là-dessus. Puis ensuite, mon rôle, ça a été de faire de la recherche visuelle sur le type de personnage qu'on voulait mettre en scène pour qu'il y ait autant de la diversité que, ben c'est ça, que ce soit des vrais jeunes, finalement, que ce soit des vraies personnes et non... Des personnages sans âme, si on veut. Donc, il y avait tout un travail à faire autour de ça. Puis, éventuellement, on est allé visiter le centre aussi. On réfléchissait en même temps à la place des intervenants dans la mise en scène. Puis, ça m'a fait réfléchir aussi au fait que, pour ma part, je tenais vraiment à ce que ce soit des humains qui soient mis de l'avant dans le récit et non juste un bâtiment un peu probablement désuet. Donc c'est ça. Puis ensuite, quand tout le travail de recherche de personnages a été fait, quand tout était plus avancé côté scénarisation, on a travaillé les scènes les unes après les autres. Puis c'était une question d'associer des scènes à des personnages et à des lieux pour avoir un portrait d'ensemble. Puis qu'on voit au moins une fois tous les lieux importants de cet établissement-là.
Nicolas?
Oui, en tout cas, Alexandra a très bien résumé ça, mais c'est vrai qu'au départ, là, quand on a travaillé avec Judith Oliver, d'abord, je réinsiste sur l'importance de Judith parce qu'il y a un travail de traduction derrière tout
absolument.
Ça.
Absolument.
Il y a une recherche. Moi, je lui ai donné 300 pages. C'était terrible, c'était impoli de ma part. Et voilà, Judith, elle est formée en sciences sociales, elle connaît bien la BD et elle a traduit. Elle a fait vraiment un travail de traduction. Elle a épuré. Ça a été des deuils pour moi, conceptuels, etc. Moi, je négociais pour rajouter un petit truc. Puis voilà, elle l'a épuré, elle en a fait. Alors après, quand même, dans l'ordre des scènes, il y a une analyse qui transparaît, notamment l'architecture, l'importance de l'architecture. Ça, en fait, ça traduit des concepts, mais implicites dans la BD. Je ne veux pas décourager les lecteurs. Là, vous pouvez y aller, il n'y en aura pas. Mais voilà, l'idée de carcéralité, de Foucault, etc., on le voit un peu, c'est implicite. Mais donc, on essaye de la... on a essayé d'épurer pour suggérer des interprétations, mais sans qu'elles soient directement écrites, on va dire. Et puis ensuite, en effet, moi je trouve que Alexandra a raison, c'est-à-dire qu'en fait il y a une certaine froideur en fait à étudier une institution. L'institution elle-même est froide, et l'analyse de l'institution en elle-même, il y a quelque chose d'un peu froid. Et donc, en effet, faire incarner cette institution par des personnages, des interactions, c'est le but d'humaniser, de remettre de la chaleur, etc. Mais en effet, l'objet lui-même a une certaine froideur, mais c'est la réalité qui est froide. Hein. Honnêtement, il faut y aller pour le comprendre.
Exact. Et en ramenant, dans le fond, sur les dilemmes, sur les débats, dans le fond, on ne personnalise pas non plus les positions. Et je pense que ça, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'objectivité parce que si on crée chez les éducateurs qu'on va beaucoup dans le background, si on me permet l'anglicisme, voir un peu c'est quoi son histoire familiale et le reste, mais subitement, l'opinion qu'il représente et qu'il supporte, je la regarde avec un biais affectif par rapport à lui. Donc, l'attachement qu'on va créer va être plus entre les éducateurs dans leur relation avec les jeunes. Dans les réflexions qui préparent, dans le fond, les interventions qu'ils vont faire avec eux. Et on se limite un peu à ce cadre-là, j'imagine aussi comme je disais, pour pas teinter nécessairement, indûment peut-être un peu le propos, le cœur du propos qu'on veut porter dans l'ouvrage.
Oui, et puis ça, je trouve que c'est un point très important parce qu'en réalité, voilà, il y a beaucoup de conflits entre éducateurs. Ils sont là, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut bien faire les choses? Et puis, il y a énormément de dilemmes. Ils vont jamais isoler un jeune par plaisir ou quoi que ce soit. Mais un des enjeux, c'est de montrer que ces dilemmes-là, ils sont structurels, entre guillemets. Et c'est-à-dire qu'ils appartiennent au bâti, à l'histoire de cette institution, à l'histoire, à ces ambivalences-là. Et donc, en fait, à mon avis, c'est passer à ce niveau-là, c'est un défi de la recherche sociologique, c'est-à-dire passer au niveau plus structurel, passer du niveau juste interpersonnel au niveau plus structurel, mais en même temps faire en sorte que ce structurel, entre guillemets, il soit incarné par des personnes, mais qui ne font que les incarner. Je ferais pas mieux que les éducateurs si j'étais à leur place. Je veux dire, voilà. Et donc, en fait, c'est ça aussi un petit peu le défi.
Et on revient un peu à notre point de départ d'une certaine façon, parce que si à travers le dessin, Alexandra Dionfortin n'était pas en mesure de bien représenter ce lieu-là, de bien nous faire comprendre la froideur dont vous parliez, bien, tout le travail sociologique de Nicolas Salé ne serait pas incarné parce qu'il nous manquerait cette donne-là. Donc, dans se battre contre les murs, je veux dire, si les murs, on les échappe, c'est la réflexion complète, dans le fond, qui est supportée par le livre qui tombe. Donc, d'où l'importance de l'architecture, puis de nous amener à comprendre, dans le fond, ce lieu-là comme tel.
Exactement. On peut le voir comme une visite des lieux, tu sais, finalement aussi. Puis je crois qu'il y avait quand même des grosses questions éthiques par rapport au fait de. Ça vient d'une recherche. Il y avait un souci journalistique important de pas avoir dans des lieux très ambivalents, de pas émettre des positions qui faisaient en sorte que le livre allait plus dans quelque chose de critiquer extrêmement pointu, si on veut, parce que ça reste une critique. Mais je crois qu'il y avait toute la question d'être un peu comme vous disiez, Raymond, d'être le plus objectif possible. Puis c'est ça, que ce soit vraiment une incursion dans les lieux, une incursion à travers des personnages qu'on pourrait croiser un peu n'importe où, finalement, puis qu'ils prennent vie à travers des enjeux qui seraient plus difficiles peut-être à comprendre. T'sais, on a parlé de sans jeunesse dans les dernières années, mais est-ce que les gens au quotidien comprennent qu'est-ce que ça implique? Je ne crois pas. Puis même avant de faire ce projet-là, j'avais vraiment pas idée à quel point c'était complexe et nuancé, si on veut, comme
Puis
question.
dans le contexte de lieux comme ça, où on a presque l'impression qu'il y a une duplicité de contraintes, on parle beaucoup du lieu puis des oppositions, mais pour les jeunes aussi, j'imagine que cette architecture-là, cette réalité-là a un effet, parce que d'un côté, dans le fond, on les contraint à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur leurs émotions, à travailler sur leurs pensées, leurs réflexions, et dans l'autre, dans le fond, le lieu lui-même appelle ou rappelle à une certaine contrainte physique avec des portes, des grillages, des caméras, on parlait des tables. Donc, ça ne doit pas être facile non plus pour le jeune de cheminer favorablement dans ce contexte-là.
En fait, c'est clair, il y a deux contraintes. Vous l'avez très bien dit, moi je l'écris dans des textes académiques, c'est la double contrainte carcérale d'un côté, puis cette contrainte disciplinaire, mais vraiment au sens de la discipline de soi, du travail sur soi. Et ça crée une sorte d'ambivalence. La discipline de soi, cette contrainte plus disciplinaire, à la fois, elle peut avoir du bon parce que ça offre aux jeunes tout un ensemble d'activités structurées, mais en même temps, ça les rappelle constamment à des formes disciplinaires qui peuvent être très dures. On les met dans leur chambre. Au motif qu'il va falloir qu'ils travaillent sur eux, etc. Donc, il y a toute une forme, il y a une dureté disciplinaire derrière tout ça. Et juste, si je peux me permettre une petite chose sur l'idée de la critique, ça me paraît extrêmement important. C'est vrai, en fait, que c'est pas nécessairement nous qui sommes critiques. Enfin, oui, le regard est critique nécessairement. On fait de l'histoire, on fait de la sociologie, on va dans ces lieux, il y a une intention critique. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que la critique, c'est les gens qui sont dedans, en fait, qui l'apportent. C'est les jeunes qui sont critiques, c'est les éducateurs qui sont critiques. Et il y a une critique, il y a des critiques qui sont déjà là. Et puis nous, on est aussi là en tant que chercheurs, la illustratrice et notre collaboration à faire vivre ces critiques-là et à les ramener peut-être aussi, bon, modestement, mais sur la place publique. Je pense que c'était un des enjeux de la grande commission Laurent, etc. C'était aussi d'entendre ce que les gens qui vivent ces institutions ont à dire de ces institutions. Et d'une certaine manière, en fait, les critiques sont déjà là, dans les murs, et il s'agit d'aller tendre les micros pour les entendre. Et donc, c'est aussi un des objectifs du livre que de les entendre, avec évidemment un effet de mise en scène qui est lui-même un peu critique, c'est sûr. L'architecture, insister sur l'importance de l'architecture, ouais.
Oui, mais effectivement, en fait, de facto, dans le fond, la posture, c'est pas. Je pense que c'est une précision importante. Effectivement, la posture, c'est pas la vôtre en soi, c'est de donner corps à la posture que les intervenants que vous allez rencontrer, que le milieu auquel vous avez été confronté porte eux-mêmes. Puis après ça, nécessairement, votre travail, c'est de nous faire vivre, nous faire ressentir, dans le fond, nous faire comprendre l'essence de ces critiques-là. Et c'est là que l'aspect mise en scène vient, à mon sens, dans le fond, pour illustrer ces commentaires-là qui arrivent de sources qui sont engagées auprès de ces jeunes-là, dans ces milieux-là.
Oui, tout à fait. Et puis le titre, « Se battre contre les murs », ce n'est même pas nous qui l'avons. C'est une citation, en fait. C'est un éducateur, c'est important de le dire. Peut-être c'est un éducateur aux archives. C'est dans les archives. C'est une citation qui date de 1987. Donc, le bâtiment, c'est 1963. Puis, c'était carcéral, je veux dire, c'était visible, c'était même conçu comme ça au départ. Et puis, il y a un éducateur qui dit, « Mais nous, si on veut faire quelque chose avec ces jeunes, il va falloir se battre contre les murs. » Voilà. Donc, en fait, c'est... Même le titre, ce n'est pas nous, c'est la citation d'un éducateur. Donc, c'est une critique qui était déjà là et qu'il s'agissait pour nous de mettre en lumière.
Et en terminant, dans le fond, on peut dire, puis je pense que vous l'avez déjà mentionné, Nicolas Salé, Alexandra Dion-Fortin, en cours d'entretien, c'est l'idée au bout du compte que le livre n'apporte pas de réponse. Je ne pense pas comme lecteur que j'ai su exactement ce qu'il fallait faire et le reste, mais par contre, ça permet une véritable première forêt à l'intérieur de ce milieu-là, une première ligne de compréhension de ce qui s'y passe. Et j'ai l'impression aussi une porte ouverte à éventuellement creuser un peu plus, à éventuellement m'intéresser peut-être un peu mieux à ces thématiques-là pour comprendre la nature du débat social qui entoure les questions de réhabilitation, dans le fond, pour les jeunes contrevenants.
Moi, je trouve que c'est clair que c'est ça l'optique, en suggérant des pistes. Moi, je dirais, c'est toujours un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que il ne s'agit pas juste de montrer, pour montrer, c'est pas du journalisme en tant que tel, la sociologie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre interprétatif derrière, et je pense qu'il faut se donner la peine de regarder les institutions en prenant en compte leur histoire, et leur histoire, elle est lourde de présupposés politiques sur le sort qu'on réserve aux jeunes, aux jeunesses marginalisées notamment, et donc en fait, si on se donne la peine d'ouvrir ces boîtes noires, cette histoire, etc., en réalité, je pense qu'on aboutit nécessairement à un regard critique sur ces institutions-là. Mais il faut se donner la peine de le faire. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Je trouve que c'est pertinent aussi de se dire que pour ce projet-là, c'était par rapport au centre jeunesse. Sauf que combien de personnes me sont revenues en se disant qu'il y avait toute une réflexion entamée aussi sur peut-être d'autres processus institutionnels qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient être sujet à être changé dans les années à venir. Tu sais, je crois que c'est un autre aspect très, très pertinent du BD reportage, c'est justement ça, c'est d'aller chercher des sujets qui nous semblent peut-être arides ou inatteignables, puis les faire lire et découvrir au plus de gens possible. Donc, pour moi, ça peut être une très belle réussite par rapport à un projet du genre.
Et bien, les gens peuvent justement plonger dans Se battre contre les murs pour découvrir un peu tout ce qu'on vient d'esquisser. Je rappelle, le livre est d'Alexandra Dion-Fortin et de Nicolas Salé. C'est disponible depuis l'automne dernier chez Atelier 10 et La Pastèque. Nicolas, Alexandra, un grand merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour à la vie en BD. On plonge maintenant vers l'événementiel puisque le deuxième rendez-vous de la BD de la saison va se tenir mercredi prochain, le 9 mars à 19h, toujours en mode hybride. Donc, d'un côté, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature et de l'autre côté, en webdiffusion, en direct sur la page Facebook de la même maison. Et Comme à l'habitude, ici à La Vie en BD, ben, le concepteur et l'animateur des rendez-vous est avec nous pour jaser, pour mettre la table autour de cette rencontre. Michel Giguère, bonjour.
Salut Raymond, on est très routinier hein, depuis 2005,
on aime ça. Oui, des rendez-vous réguliers. Michel, en fait, on est routinier évidemment sur la rencontre, mais les sujets vont tirer vraiment dans toutes les directions au fil des mois. Le mois dernier, on était dans les voyages, dans le côté un peu géographique, exploration. Et maintenant, ta prochaine présentation, elle va s'inscrire plutôt dans une autre série, si on peut dire, donc tes thématiques à caractère plus pédagogique. Donc, on en a parlé d'ailleurs au fil des années, on a parlé de découpage, on a parlé de mise en scène, on a parlé de mise en séquence. Et maintenant, pour le 9 mars, tu vas parler de mise en page.
Oui, en effet, sous le titre « La fièvre des planches », une fièvre qui va nous changer de la COVID, je me dis, en tout cas, j'espère. Et je tiens à préciser à l'attention de ton auditoire là, que si quelqu'un n'a pas assisté aux autres diapo-conférences ou les a pas visionnées sur Internet, ce n'est pas un prérequis à la compréhension de la dernière, de la prochaine. Ils vont tout comprendre, ne serait-ce que parce que je vais situer la mise en page à l'intérieur du processus de création d'une BD, je vais contextualiser, mais aussi... Il faut dire que la mise en page, elle est indissociable de la mise en scène et du découpage. Donc, je n'ai pas le choix, je vais aussi brièvement revenir sur ces notions-là.
Oui, puis j'en profite aussi pour préciser, bon, tu le dis, Michel, c'est des notions qui sont indissociables les unes des autres, qui sont au cœur de la création d'une bande dessinée, mais aussi pour moi, lecteur, et pour nous, lecteurs, ben, c'est au cœur de la lecture d'une bande dessinée. Mm-hmm. Donc, comme lecteur, on est à l'aise à lire le médium, on est capable d'apprécier la lecture, évidemment, sans nécessairement s'arrêter pour réfléchir à comment ça marche, mais je trouve toujours extrêmement stimulant et extrêmement riche, justement, d'ouvrir un peu ses ornières et d'ouvrir le capot, de nous pencher sur cette mécanique-là pour la comprendre, puis pour apprécier d'autant plus, au bout du compte, la bande dessinée. Oui.
Moi qui suis très nul en mécanique, entre autres en mécanique automobile, j'ai plutôt des métaphores du style inviter les gens en coulisses pour voir un peu comment se tirent les ficelles du grand marionnettiste. Là. Et puis d'aucuns diraient, tu sais, on entend ça des fois, on veut regarder l'écureuil le gambader gracieusement, on ne veut pas le disséquer pour examiner sa physiologie. Là. Eh bien, pour un lecteur, c'est une position que je trouve tout à fait défendable. Pas gâcher la magie, se laisser porter par la lecture sans chercher à tout analyser. Mais, en tout cas, pour les autres, qui sont curieux de connaître le mode de fonctionnement de la patente, eh bien, l'exploration des coulisses, ça peut devenir drôlement enrichissant. Et tu sais, au début de cette semaine-ci, j'étais à Montréal pour la promotion d'un ouvrage qui est à paraître le 10 mars, là.
Et... Oui, en fait, ça va être le lendemain de la rencontre, donc ça va te faire quand même un bon blitz. Côté semaine, là, côté période.
Oui, je me couche après le rendez-vous, puis quand le cadran sonne, je vais trouver que la nuit a été courte, puis on part. Alors, oui, grosse semaine. Donc, justement, à ce propos-là, il faut peut-être préciser qu'il s'agit d'un gros bouquin sur l'œuvre et l'art de Michel Rabaligatti. Donc, forcément, ça va porter sur la série Paul, entre autres. Un gros bouquin qui constitue, si on veut, un prolongement sur papier de ce que je fais depuis 2005 avec les rendez-vous de la BD. Donc, je disais qu'en début de semaine, un des journalistes nous disait à Michel Rabaligatti et moi, « Après avoir passé à travers votre livre, je ne pourrai plus jamais lire une BD de la même manière. » Eh bien, il n'y a aucun commentaire qui pouvait me faire plus plaisir. C'est d'ailleurs l'idée derrière ma diapo-conférence de la semaine prochaine, inviter l'amateur de BD à s'outiller pour devenir un lecteur plus averti. D'ailleurs, celles et ceux qui voudraient se préparer en amont ou, à l'inverse, compléter leur réflexion en aval, eh bien, sachez qu'ils peuvent toujours visionner les présentations sur la mise en scène, celles sur la mise en séquence, puisqu'elles sont encore visibles en rattrapage, donc, comme tu disais, sur la page Facebook de la Maison de la littérature.
Alors, on a mis la table un peu, on a dressé le tableau. Maintenant, venons-en à des considérations peut-être un peu plus techniques. Donc, commençons peut-être par définir justement ce que c'est la mise en page.
Oui, ça ne sera pas superflu. Alors, de manière bien terre-à-terre, je dirais que la mise en page, c'est l'organisation des cases dans l'espace de la planche. Bon, à titre de comparaison, les infographistes qui conçoivent des pages de publicité ou des sites web ou des maquettes de magazines et de journaux, eh bien, ils ont à placer un titre, un chapeau, un article, une ou des photos, une légende sous la photo, un tableau, une exergue accrocheuse à quelque part. Alors, ils font de la mise en page. En bande dessinée, la mise en page, elle est liée au découpage du récit. Un exemple, mettons qu'un auteur choisit de raconter une séquence en la découpant en 10 cases, ou si tu préfères, en 10 moments, en 10 arrêts sur image, pour utiliser un vocabulaire de cinéma. Eh bien, il a du coup à déterminer s'il va condenser 10 petites cases en une page ou bien s'il va déployer les 10 cases sur une double page. Et la mise en page est également liée à la mise en scène, on le disait plus tôt dans notre entretien, là. Alors, la mise en scène, c'est en quelque sorte l'aménagement de l'intérieur de chaque case. Où placer les personnages? Où placer les éléments de décor? Et puis les bulles, les récitatifs, tout ça. Où placer ces éléments-là les uns par rapport aux autres? Et aussi, où placer le lecteur par rapport à la scène qu'on lui fait voir? Ça, c'est plus abstrait, mais c'est très, très important. Bref, comment représenter l'action? Et bien entendu, selon qu'une séquence se confine en une seule planche ou qu'elle s'étend sur deux planches, ça influe sur la mise en scène et vice-versa. Éventuellement, si le BDiste a au départ une idée assez précise de sa mise en scène, ça va assujettir la mise en page, ça va déterminer le nombre de planches requises.
Et ça peut orienter, est-ce qu'on a besoin d'une planche ou d'une double planche aussi?
Oui, puis c'est bien que tu en parles parce que tant que moi, je considère que la double planche, elle est même plus significative que la planche. Je m'explique. La bande dessinée, c'est un mode de narration très segmenté, quand on y pense. Le récit en BD, il est segmenté d'abord sur deux plans. Il est segmenté, là, ça va être la partie compliquée de mes explications. Il est segmenté sur le plan formel et aussi sur le plan narratif. Sur le plan formel, le récit de bande dessinée, il est segmenté par la case et en même temps par la planche et par la double planche quand on ouvre l'album tout grand. Et d'une certaine manière, il est segmenté par les dimensions de la page, de la double page, bref, par les dimensions du livre et par la nature livresque de la bande dessinée, par le support du livre en lui-même, entre autres parce qu'il faut qu'on tourne les pages. Ça le différencie nettement d'un film à la télé ou au cinéma, par exemple. Et à chaque page qui se tourne, le récit se dévoile à coup de deux planches. Hein? Je parlais de l'importance de la double planche, à raison de plus ou moins, c'est variable, 15 cases à la fois. Le BDiste, il doit évidemment en tenir compte, à commencer par quelles seront les deux pages côte à côte. Il doit le savoir dès le début pour l'ensemble de tout l'album. Et entre autres, à quel endroit il va placer la chute. C'est quoi la chute? C'est le punch ou le coup de théâtre, ou le rebondissement, ça peut aussi être un suspense. Et si la chute survient en milieu de planche, ben ça fait patate. Ce serait mieux à la fin de la planche, et ce serait encore mieux à la dernière case de la planche de droite. Donc, la double planche, ça revient encore. Et la chute, c'est la tombée de la planche. La chute, elle prend la forme tantôt d'un point d'exclamation, tantôt d'un point d'interrogation, tantôt de trois points de suspension. Et dans les trois cas, le lecteur est irrésistiblement tenté de tourner la page plutôt que de poser l'album pour éteindre sa lampe de chevet puis se coucher.
Et je reviens avec ça parce que c'est clair, comme tu dis, dans le fond, dans la structure d'un récit en bande dessinée, que la double planche est capitale, est essentielle. Dans le fond, tu viens de le démontrer en parlant de la segmentation formelle. Mais tu disais aussi qu'il y avait une segmentation sur le plan narratif?
Oui, ben, ça, c'est peut-être moins concret. Une histoire racontée sous forme de bande dessinée, elle est segmentée en plan, en scène, en séquence, etc. Alors, reprenons-les, les plans. C'est un certain cadrage dans un certain angle. C'est une composition de l'image qui va durer le temps d'une seule case dans une BD qui aurait un rythme rapide ou encore dans une scène d'action. Et par ailleurs, qui peut être reproduite dans plus d'une case selon que l'on veut plus ou moins ralentir la narration. Donc, on va reprendre, on va répéter, pour ainsi dire, la même image sur plusieurs cases. C'est le plan. Une scène est constituée d'une série de plans qui forment un tout. Selon la traditionnelle règle des trois unités, à savoir une seule action dans un seul lieu et en un seul temps. C'est assez simple. À leur tour, une suite de scènes liées entre elles vont former une séquence. Une séquence, c'est l'équivalent d'un chapitre avec un début, un milieu puis une fin. Encore une fois, il y a une cohésion dans la séquence. Et une suite de séquences, ben, ça va former le récit. Mais, ça c'est intéressant, si le récit est publié en plusieurs albums, comme c'est souvent le cas tant dans la bande dessinée japonaise qu'américaine ou franco-belge, eh bien là, on ajoute un autre niveau de segmentation puisque le récit va être publié en épisodes. Il y a aussi les épisodes.
Et tantôt, là, pour s'assurer que tout le monde nous suit bien, tu expliquais qu'une séquence pouvait s'organiser sur une page, sur deux pages. Donc, la manière dont tu parlais, ça laissait croire qu'une séquence ou une scène devait ou allait de facto correspondre à une page ou à une double page.
Oui, en fait, c'est vrai, c'était plus simple pour moi de l'expliquer comme ça tantôt, mais en fait, ça ne va pas nécessairement de soi. Il y a des BDistes, surtout par le passé, là, qui ne se préoccupent pas trop de ça et qui passent à une autre scène ou une autre séquence en plein milieu d'une planche. Sortez plein d'albums de votre bibliothèque, là, puis ouvrez-les au hasard, puis vous allez pouvoir le vérifier. Depuis les années 80, je dirais, il y a une proportion grandissante d'auteurs qui s'appliquent à faire coïncider une scène à une planche ou, encore une fois, à une double planche. Il faut dire que, pour l'essentiel, la BD a évolué dans le sens d'un ralentissement de la narration. Hein. Pendant longtemps, les histoires paraissaient dans les journaux, comme on disait, des journaux, par exemple, Tintin au Pilote, ça c'était Outre-Atlantique, ou encore, les BD paraissaient sous forme de comic book de 25 pages ou bien sous forme de 5 strips par semaine chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Et dans tous les cas, la forme feuilletonesque incitait les BDistes, sous la pression de leurs éditeurs, à multiplier puis concentrer les péripéties. Et quand la BD s'est affranchie de la publication en feuilleton, elle a pu lever le pied et rouler plus doucement en étirant, par exemple, une même scène sur plusieurs pages ou tout au moins sur une planche entière. Et de cette façon-là, ça faisait coïncider la scène à la planche et en même temps, ça arrimait les deux types de segments dont on parle, le segment formel et le segment narratif qui se trouvaient à se marier. Et l'avantage collatéral de ce principe-là qu'une scène égale une planche, c'est que ça contribue à la clarté visuelle et même à l'esthétisme, à la beauté de la planche ou de la double planche, en particulier parce qu'un même endroit devient le théâtre de la page entière. C'est-à-dire que rester dans le même décor pendant deux pages, quand tu ouvres l'album et que tout ce que tu as sous l'œil, ça se passe dans le même décor, ça favorise une certaine uniformité des couleurs et aussi une certaine cohésion esthétique. Et puis, c'est doublement vrai quand la scène couvre les deux planches, la double planche.
Et on imagine en fait que tout ça doit devenir une gymnastique assez complexe du moment où on commence à s'y attarder justement, là.
Oui, plutôt complexe, oui. C'est une contrainte parmi d'autres dans un mode de narration qui en compte beaucoup de contraintes. Moi, je dis toujours que la BD, elle est facile à concevoir au sens propre. On prend une pile de feuilles, un crayon, une efface, c'est suffisant pour réaliser une BD. Mais la bande dessinée est difficile à concevoir si on prend le verbe au sens figuré. Par exemple, à elle seule, la mise en page implique plusieurs aspects, j'en ai parlé quelques-uns, et ça implique, concrètement pour le créateur, ça implique beaucoup de compromis. Et pour ma part, moi, je trouve les contraintes tout à fait stimulantes, tout à fait productives. J'ai essayé de transmettre ça dans mon enseignement, dans mes ateliers au fil des années. Et au fond, c'est, je pense, cette complexité-là qui me fait me passionner pour le 9e art. Et cette complexité, ben, on va s'y glisser mercredi prochain. Mais on va le faire à travers des tonnes d'exemples de planches projetées sur écran. Et le public, il est familier avec le médium BD. Alors, de montrer des exemples, ben, ça facilite grandement la compréhension des notions et des procédés que j'expose ici. Là. Comme on dit, une image vaut mille mots. Hein?
Oh oui, effectivement. Puis de pouvoir effectivement voir exactement l'impact, les choix, de comprendre tout ce déploiement-là devient extrêmement précieux aussi. Parce que tu dis, dans le fond, ça recoupe directement l'expérience qu'on a comme lecteur quand on feuillette, quand on lit, quand on regarde, dans la relation, dans l'immersion qu'on peut avoir à la lecture. Et à travers tout ça, Michel Giguère, on comprend bien, je pense que les planches de BD, c'est une construction qui est élaborée, c'est une construction qui est raffinée. Et d'une certaine façon, donc, peut être aussi très technique, autant qu'instinctive, tout dépendant des créateurs. Et pour le lecteur, tout ça, ça devient d'abord et avant tout esthétique, bien souvent, là, quand on va feuilleter, justement, ou lire les albums. Alors, ça veut dire que pour ta conférence du 9 mars, ben nécessairement, les planches et le plaisir visuel va être au rendez-vous, là.
Oui, c'est pas parce que le prof Giguère sort un peu de sa boîte là, pour se prendre plaisir à expliquer des notions puis le langage de la BD, qu'il va y avoir que ça. Il va avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de beauté aussi. En deuxième partie de ma diapo-conférence, là, quand la capacité de concentration puis d'assimilation de l'auditoire va commencer à faiblir, je vais enchaîner avec une approche plus récréative, plus contemplative, en projetant un florilège de ce que j'appelle, entre autres, des planches tableaux. Des planches tableaux parce qu'on les accrocherait sur un mur comme un tableau pour pouvoir l'avoir sous les yeux, mais planches tableaux aussi parce que le bédéiste, à l'occasion, il exploite la tabularité de la planche. Ce que je veux dire, c'est que le bédéiste se fait alors architecte, joue de la symétrie, joue avec les masses, les couleurs, les déplacements des personnages dans l'espace de la page. Et il y aura aussi, par ailleurs, une série d'exemples de planches où il n'y a pas de gouttière, ou si tu préfères, d'intercasse, d'espace intericonique, entre les plusieurs termes. Dans ces cas-là, les auteurs essayent d'optimiser la fluidité de la narration et la fluidité de la lecture, mais sans sacrifier, tant que possible, sans sacrifier la clarté narrative et visuelle. Donc, on va voir des exemples de ça. Évidemment, il sera question aussi de gaufrier, très à la mode, et plus largement, des créateurs qui utilisent, sans que ce soit tout le temps le gaufrier, qui utilisent des canevas symétriques qui permettent un certain nombre de combinaisons en fusionnant, par exemple, deux ou trois cases ensemble, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, mais ils vont toujours rester à l'intérieur d'une grille prédéfinie. Et à contrario, je présenterai des spécimens de planches qui se déploient en toute liberté, là, hors de tout canevas et de toute symétrie, en usant notamment de l'élasticité des cases. Les cases s'étirent soit pour s'ajuster à leur contenu, soit pour créer un effet narratif. Par exemple, suggérer que le temps s'étire lui aussi, puisqu'en bande dessinée, le temps et l'espace, ils sont intimement liés.
Et c'est là qu'on fait un peu la quadrature du cercle, puis qu'on revient à ce que tu disais au début sur le fait que la mise en page, la mise en scène et tous les éléments de composition sont rattachés entre eux. Et au bout du compte, que la mise en page et la façon par laquelle l'auteur va choisir de la transmettre va être motivée par le récit, par l'histoire qu'il veut raconter, par l'impact, par l'effet qu'il veut créer chez son lecteur au bout du compte. Donc, ça devient un outil parmi d'autres au service, dans le fond, du récit.
Ah oui, il y a une espèce d'alchimie. Tu sais, j'en ai déjà parlé à ton micro, mais on entend trop souvent que la bande dessinée, c'est le mélange du texte et du dessin. Je trouve ça tellement réducteur, tellement simpliste, là. C'est une alchimie subtile et parfois on peut le mesurer, par exemple, quand on a lu et on connaît bien une bande dessinée et qu'elle est adaptée en dessin animé. Par exemple, Lucky Luke, quand il dégaine dans la BD, c'est d'une subtilité, c'est d'une drôlerie très spirituelle. Et il y a un effet, là, c'est comme si il n'y a presque pas d'effet, c'est d'une grande sobriété, mais il tire extraordinairement vite, mais c'est tout le temps très flegmatique, et puis les effets sont très subtils. Bref, tu ne vois rien, en fait. Tandis que dans le dessin animé, forcément, ça va bouger, puis ça va être plus excité, plus ça va, tu sais, en tout cas, on va perdre cette subtilité-là, qui, dans les faits, est due à certains handicaps de la bande dessinée, certains désavantages par rapport à la segmentation dont je parlais tantôt, entre autres. Quand tu y penses de passer de case en case, c'est super saccadé. Tu sais, Will Eisner, il dit, il appelle la bande dessinée l'art séquentiel. Moi, j'appelle ça l'art saccadé parce que c'est tout le temps ça. Là. C'est tout le temps une image, une ellipse, une image, une ellipse. Puis, à un moment donné, ben, il y a des créateurs pleins de ressources qui ont transformé ce qui était une faiblesse ou une lacune en trouvaille et puis en force, en l'exploitant, cette ellipse-là.
et on va donc découvrir en ta compagnie une des forces du médium à travers sa mise en page. Ouais. C'est mercredi 9 mars, 19h, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature ou en direct sur le web via la page Facebook, la Maison de la littérature. Je vous rappelle qu'il faut réserver, si on veut y accéder à cette activité-là en chair et en os, et que si on ne réserve pas, on peut toujours passer au cas où que quelqu'un ne se serait pas présenté, mais vaut mieux réserver. Alors, la fièvre des planches va se propager assurément. Michel Giguère, merci beaucoup.
Ça fut un plaisir, merci.
On a le temps pour quelques petits commentaires BD. Alors, allons-y rapidement. Je ne rentrerai pas dans un gros détail autour des différents albums, mais je voulais quand même leur faire des petits clins d'œil, notamment chez Ça et Là, un ouvrage qui s'appelle « Hanté » par une vieille folle moralisatrice. Donc, c'est le journal de bord qui nous est proposé par Chagaillé Moazami. Donc, c'est une autrice d'une trentaine d'années. Elle a quitté son pays d'origine, l'Iran, pour venir s'installer au Canada avec son mari. Donc, c'est en 2016 que le déménagement s'est passé et l'ouvrage commence en 2018. Donc, le couple s'installe dans un logement correspond un peu plus à leurs besoins, à leurs attentes. Ils étaient instables professionnellement, ont atteint la stabilité, décident d'aller s'installer. Évidemment, Chagaillé est dessinatrice et à travers le dessin, elle nous amène dans, j'ai envie de dire un peu sa psyché d'une certaine façon, dans la mesure où l'album travaille à mettre de l'avant le poids dans le fond de l'éducation, le poids des traditions, le poids des coutumes de son pays d'origine et de sa jeunesse, dans le fond, qui s'est fait dans une période très conservatrice à l'intérieur de ce pays d'origine-là. Évidemment, les réalités iraniennes ont fait écho en bande dessinée à travers différents ouvrages. On pense d'entrée de jeu à Persepolis qui met de l'avant justement le point de bascule entre une société plus standard permissive vers une société vraiment plus opprimante, on peut le dire comme ça. Et dans le fond, avec Hanté, eh bien, on se retrouve justement à essayer de comprendre et de mesurer le poids que peut avoir cette oppression-là pour quelqu'un, dans le fond, qui pourtant s'en est libéré ou a tenté de s'en libérer. Alors, ça nous donne quelque chose qui est psychologiquement très intéressant. Parce qu'on voit finalement que le poids de ses origines, que le poids de son éducation devient un peu plus lourd. Quand on parle dans le titre, ben, hanté par une vieille folle moralisatrice, mais ben, donc différentes figures qui ont marqué sa jeunesse, qui apparaissent à différents moments, qui la guettent, qui, dans le fond, illustrent ou présentent les petits mots qui peuvent se retrouver un peu loin dans nos esprits et qui viennent justement taper un peu sur certains clous, taper un peu autour de certaines situations et dans le fond, créer un sentiment profond d'inconfort autour de tout ça. Donc, on est dans un récit autobiographique. Alors, on est dans une première bande dessinée par ailleurs. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un ouvrage qui est entièrement parfait, mais je ne pense pas que l'attente, elle, est là non plus. Mais on ouvre la porte, dans le fond, à une compréhension psychologique, à un moment de partage avec cette dame et avec un parcours, dans le fond, d'émancipation. Des restrictions d'émancipation face au poids de la religion et de volonté, dans le fond, de passer outre son passé, de passer outre des épisodes marquants de son enfance dans un contexte où on n'arrive pas nécessairement, où ce n'est pas facile, voire même ce n'est pas nécessairement possible non plus, et ce qui devient source de colère, ce qui devient source de grande frustration, et donc où on se retrouve avec des démons intérieurs, dans le fond, qui nous suivent, qui nous hantent, mais duquel on n'est pas apte, on n'est pas en mesure de se défaire, et on voit évidemment un parcours de reconstruction, un parcours d'affirmation, donc oui, il y a des imperfections dans cette BD-là, mais au-delà de ça, je pense que le propos lui-même est important. Le propos lui-même nous amène à une certaine prise de conscience à travers justement la capacité, la volonté, l'ouverture, la sincérité dont semble faire preuve Chagaillé Moazami dans cet ouvrage-là. Alors, Hanté, c'est du côté de Ça et Là, si vous avez envie d'aller vers ce type de thématique-là. Et si on reste un peu dans le social, je m'en voudrais de ne pas faire un petit clin d'œil à Blanc autour. Blanc autour, dans le fond, de Wilfried Lupano et Stéphane Farr, un ouvrage. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense qu'il s'est retrouvé dans plusieurs palmarès par ailleurs. Donc, on se retrouve dans une bourgade aux États-Unis. Donc, une révolte d'esclaves qui avait éclaté. Éventuellement, dans le fond, on se retrouve dans une dynamique où on va, dans le fond, suivre tranquillement, dans le fond, une personne, donc, une personne noire, dans le fond, qui va se retrouver un peu dans ce milieu-là. On va se questionner sur les rapports de classe, on va se questionner sur les rapports de racisme à travers, dans le fond, la présence d'une fille noire qui, tranquillement, cherche à se trouver une place, dans le fond, dans cette bourgade-là, dans un contexte de méfiance, dans un contexte de fermeture aussi. Évidemment, dans le fond, à travers cet ouvrage, au bout du compte, on aborde de front la question de la place des gens de couleur dans la société de l'époque et nécessairement qu'il y a des répercussions sur les réflexions actuelles aussi. Donc, vraiment, on est dans un album qui est fortement ancré dans l'actualité, qui est fortement ancré dans les questions sociaux et, dans le fond, qui illustre déjà un peu aussi l'histoire de ces combats-là pour accéder à des droits équivalents aux autres Américains, des droits qui, il y a à peine 200 ans, étaient tout sauf acquis, qui, il y a à peine 100 ans, étaient tout sauf acquis aussi, dans le fond, qui ont été gagnés morceau par morceau, par morceau, par morceau. Et évidemment, on peut peut-être, malheureusement, en venir à l'oublier. Alors, des albums comme ça nous replacent, si on peut dire, dans des contextes qui sont évidemment d'intérêt et qui nous permettent de mieux comprendre ou d'approfondir différemment à travers une œuvre de fiction inspirée d'un contexte réel, justement, des réalités sociales qui ont encore leur impact négatif aujourd'hui. Alors, évidemment, j'en dirai pas plus. Là. Je pense que j'ajoute ma voix à un cortège de critiques favorables pour cet album-là. Donc, simplement pour découvrir donc l'histoire de Blanc autour, donc le combat de Prudence Crandall, qui est donc une institutrice blanche engagée en faveur de l'accès à l'éducation, en faveur de l'accès à l'éducation pour les Noirs et à travers le cas d'enfants de gens qu'elle va tenter d'accompagner, auquel elle va tenter de donner accès à une éducation de valeur. Alors, à lire, ça, c'est du côté de Dargo, d'ailleurs. Et tiens, si on sort un peu des questions sociales, mais on ouvre un peu sur les questions de genre, pourquoi pas, Le Jardin, donc une bande dessinée qui a été publiée, donc c'est du côté, si je ne me trompe, de Delcourt, c'est de Gaëlle Guenillé. C'est l'histoire, en fait, on se retrouve là dans les années 1920 dans le monde des cabarets. Donc, il y a un cabaret qui s'appelle Le Jardin. Dans ce cabaret-là, on est en fait dans un cabaret burlesque, donc où chaque personne qui danse, chaque femme jusqu'à un certain point, donc, qui danse a un nom de fleur. Et dans ce monde-là, a grandi un enfant qui, au cours de sa vie, s'est intéressé à la chose féminine. Lui est né garçon, mais il a une forte attirance pour tout l'univers féminin, sans nier non plus le fait qu'il est un garçon. Donc, on n'est pas dans une histoire de transsexualité, on est dans une histoire de non-binarité. Si on l'amène dans le vocabulaire actuel, donc à travers ce personnage-là, ce jeune garçon de 18 ans, donc qui s'appelle Rose, on explore dans le fond la notion de genre, la notion de binarité. On nous l'illustre au fil de quelques 200 pages, donc d'un côté dans le cabaret lui-même, d'un côté dans le magnétisme que Rose va avoir dans sa danse, dans sa personnalité, dans sa manière, dans le fond, d'exprimer sa différence, dans la confiance, la candeur avec laquelle il vit ça, parce que jusqu'à un certain point, lui n'avait pas nécessairement l'impression de dépasser des règles, de transgresser des règles. Et éventuellement, au fil de l'ouvrage, il va se rendre compte justement qu'il transgresse des règles. Par sa transgression, il va susciter un certain intérêt qui va l'amener à se questionner un peu sur ce qu'il souhaite avoir, mais sans jamais, jamais mettre de côté ce qu'il est et sans jamais choisir de trahir non plus ce qu'il est non plus. Donc, on joue avec subtilité, avec bienveillance, je trouve, en fait, autour de ces albums-là, il n'y a personne qui va interdire à Rose d'être ce qu'il, elle est. On va plutôt montrer un grand réseau d'alliés, dans le fond, qui sont autour de lui pour le laisser être ce qu'il souhaite, qui vont l'accompagner là-dedans, qui vont le laisser être jeune autant qu'être homme, autant qu'être femme, autant qu'être un peu les deux à la fois. Et au bout du compte, le tout fait avec, je trouve, une belle subtilité aussi, une belle sincérité. Je pense que je répète un peu mes adverbes, mais bref, vraiment un album que j'ai trouvé intéressant, visuellement très beau, et qui nous amène, dans le fond, une autre exploration autour de ces thématiques-là. Quand on parlait tout à l'heure, dans le fond, de réflexions qui sont ancrées dans certains débats sociaux actuels, eh bien, on en a un autre exemple avec Le Jardin. Et peut-être dernier petit clin d'œil, on va retourner chez Dargo avec La Désolation d'Apollo et de Christophe Gaultier. Donc, on est dans un ouvrage, et ça, j'ai trouvé intéressant parce que il y a comme un... Et là, je vous dévoile un peu, dans le fond, donc vous n'aurez pas mon expérience de lecture comme telle, et j'en suis sincèrement désolé. Alors, je vais peut-être résumer le début dans un premier temps, puis après ça, je vais vous mentionner que je vais prendre une petite minute pour parler du point de bascule. Donc, essentiellement, l'ouvrage commence, on est un peu dans une logique d'album documentaire, donc dans la mesure où on se retrouve avec un photographe, avec un artiste qui va faire un reportage sur les îles Kerguelen, les îles de la Désolation, donc les mêmes qui sont citées dans le carnet de voyage d'Emmanuel Lepage. Et donc, dans ce cas-ci, on va suivre Évariste, donc, qui va discuter avec des géologues, avec d'autres personnes qualifiées aussi de touristes par les scientifiques, avec des gens qui vont donc se rendre pour différentes raisons aux îles Kerguelen. Lui va suivre un peu le bateau, débarquer, prendre un peu état des différents lieux, des différents endroits, et éventuellement va accepter d'accompagner, donc pour voir un peu au-delà de son schème auquel il avait accès, donc pour voir un peu au-delà de ça, la réalité de l'île. Donc, il va s'embarquer dans une expédition. Alors ça, c'est vraiment le premier tiers. Et le moment où je commence à révéler un peu d'éléments qui vont peut-être changer votre expérience de lecture, alors c'est maintenant. Donc, on est vraiment dans l'idée où on a un point de bascule et où l'ouvrage va passer au tiers ou à mi-parcours, dans le fond, d'un genre ou de l'apparence d'un genre vers complètement autre chose. Donc, on pensait qu'on plongeait dans une bande dessinée à saveur documentaire, même si à saveur de fiction, où on pensait qu'on allait parler de biologie et de géologie, de nature à l'état d'origine, des réalités de l'île Kerguelen, et de se retrouver avec un autre, dans le fond, ouvrage documentaire sur ces terres-là, sur ces terres vierges-là. Mais il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose qui va amener le récit complètement ailleurs et qui va nous livrer une histoire, un brin surréaliste, profondément assez particulière, assez surréaliste, sur une terre reculée, une aventure qui est assez particulière également, des réflexions sur l'essence de l'humain, des réflexions sur la liberté, des réflexions sur la survie également, et une réflexion sur l'origine puis l'avenir aussi de l'humanité qui va se poser à travers tout ça. Donc, ça donne un ouvrage qui est assez particulier, qui a un petit côté froid, un petit côté anxiogène, un petit côté angoissant, mais en même temps qui représente aussi une belle curiosité qui est extrêmement stimulant à certains égards, mais justement à cause de ce point de bascule-là où on dépasse complètement, où on transcende ce qui était annoncé au départ et qui, pour moi, a vraiment rendu La Désolation comme un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié et dont j'avais envie de vous parler justement aujourd'hui. Alors, c'est difficile d'en dire un peu plus, sinon on est dans un dessin qui est réaliste, qui est classique, qui est très bien fait dans l'esprit du récit et comme tel, rien à redire de ce côté-là non plus, c'est très correct, mais vraiment... Gros pouce en l'air là, pour le scénario et l'évolution qu'on nous propose de cette histoire-là. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça me faisait penser, entre autres, là, on en parlait dans un club de lecture il y a quelques temps, mais sur Winchlus, J'ai tué le soleil, un récit qui, justement, de section en section, nous amène des informations ou change un peu le ton, la nature du récit et viennent nous surprendre un peu, mais tout en étant très cohérent et organique avec ce qui était proposé précédemment. Alors ça, c'est la désolation pardon, d'Apollo et de Christophe Gaultier. C'est du côté de Dargo. Et bien, voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et on se dit à la semaine prochaine.